Bonjour tout le monde, ça va bien? J'espère que vous êtes en forme, que vous avez envie de rencontrer Jésus-Christ ce matin. C'est ça ma prière. On l'a mentionné dans les annonces à la fin. On a un livre pour vous à la fin du service. Vous pourrez prendre le livre. C'est un livre qui a fait du bien à mon âme cette année, qui m'a aidé à comprendre un peu mieux le cœur de Jésus-Christ. Avant de lire le passage des Écritures, j'ai une question pour vous. Quand vous filez cheap, au Québec on dit ça, hein, filez cheap, quand vous sentez pas bien, vous êtes malheureux, peut-être par votre faute, peut-être parce que vous avez souffert une injustice, peut-être que vous n'êtes juste pas bien à quelque part dans votre vie, vers qui est-ce que vous êtes porté à aller vous confier? Pensez à une personne qui vous donne le goût d'aller vous confier. Est-ce que vous allez vers quelqu'un qui est doux, qui est compatissant, ou vous allez vers quelqu'un qui va vous remettre à votre place? C'est quoi votre réflexe? Je ne sais pas comment vous voyez Jésus-Christ, mais il y a un seul passage dans tout le Nouveau Testament où Jésus nous parle de son cœur. Et par expérience personnelle, puis par expérience pastorale, en parlant avec les gens, je pense que très peu d'entre nous connaissons vraiment, vraiment intimement le cœur de Christ. Pour avoir le réflexe spontané d'aller vers lui lorsqu'on file cheap. Le seul passage où Jésus parle de son cœur, il dit qu'il est doux et humble de cœur. Et ma prière, c'est que ce matin, vous saisissiez un peu plus la douceur de Jésus, sa compassion, et qu'on puisse grandir dans ce réflexe-là d'aller vers lui plutôt que de le fuir lorsqu'on ne se sent pas bien, mais qu'on ait le réflexe de courir dans cette direction. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es doux et humble de cœur. C'est ce que tu nous dis sur toi, Seigneur. Tu te présentes comme celui qui est doux et humble de cœur. Seigneur, je te prie de venir... qu'on puisse réaliser à quel point c'est ce que tu es et c'est avec ce regard-là que tu nous regardes, Seigneur. Qu'on se soit éloigné de toi ou qu'on soit tout près de toi, tu gardes cette humilité de cœur et cette douceur, Seigneur. Et je te prie de venir te révéler à nous ce matin, de venir nous parler, de venir nous le montrer, Seigneur, de venir nous le communiquer. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.
Et dans Matthieu 11, les versets 25 à 30 dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu 11, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Merci, Julie. Michel m'a bien averti de ne pas dire merci, chérie. C'est son épouse, après tout. Mon épouse lit souvent. Fait que... Plusieurs d'entre vous savez que j'aime les arts martiaux. Puis, bon, actuellement, on est en pause. Je suis en pause. Mais j'aime beaucoup ça. Puis, ça m'a pris beaucoup de temps avant de me mettre à pratiquer les arts martiaux parce qu'il y a toutes sortes de rituels, de religions souvent derrière ça. Puis, trouver une école où on peut juste faire du sport ensemble, c'est pas simple nécessairement. Mais je ne sais pas si j'ai déjà raconté à l'église ici comment j'ai découvert l'école où, jusqu'avant la pandémie, je faisais des arts martiaux, un style qui est assez rare, les gens ne connaissent pas beaucoup le Wing Chun. Puis comme c'est rare, déjà trouver une bonne école, quel que soit le domaine, que tu sois en musique, n'importe quoi, c'est pas facile de trouver une école où tu es comme inspiré par le professeur, puis tu as confiance, puis tu sens qu'il y a une bonne pédagogie, puis il y a comme un paquet de critères, parce que tu vas investir des heures à aller là, mais tu vas investir des heures à la maison à pratiquer tout ça. Puis j'avais déjà fait 5 ans d'art martial avant ça. Fait que là, j'étais encore plus exigeant dans ce que je cherchais. Je téléphonais des écoles, j'allais visiter tout ça. J'essayais de voir c'est quoi le feeling, est-ce que ça me met en confiance. Puis à un certain moment donné, j'appelle à une école, puis le monsieur me répond en anglais. Puis le monsieur me répond, puis il dit « Hi, this is the janitor », le concierge. Je dis « OK ». Je dis, je pose des questions, tout ça. Il répond à quelques questions, puis je dis « Quels sont les tarifs pour l'école ?» You need to come and see. You will meet the Sifu, le maître de l'école. This is the janitor. C'est correct. Je raccroche, puis je me suis dit, non, c'est pas le concierge. C'est une joke. Fait que j'arrive là-bas, puis je me souviens, c'était une fin d'été, au mois d'août, il faisait chaud, il pleuvait, on monte l'escalier, c'est assez ordinaire comme milieu, c'est pas comme super inspirant. Tu montes des escaliers, c'est comme au 4e étage. Puis là, j'arrive là, puis il y avait le son d'un disque vinyle qui grichait. C'était pas ça, c'était un CD, mais avec une toune chinoise très ancienne qui était là. Il pleuvait, il faisait chaud, il n'y avait pas d'air climatisé. Il y avait juste des grosses fans comme ça, là, en métal. Là, je dis, oh, j'ai l'impression que je viens de voyager, je suis parti dans un autre pays. Puis j'arrive là, puis le janitor vient me voir. Et puis, finalement, c'est ça. Je vous ai déjà dit, il ressemble à Yoda, il est à peu près ça de grand, c'est fou. Puis là, il nous salue, très gentil, très doux. Puis il commence à faire des démonstrations. Puis c'est fascinant le Wing Chun, parce que dans la démonstration, il met un bandeau sur ses yeux. Puis à partir du moment où il y a un contact avec toi, c'est impossible, tu ne vas pas le toucher. À l'époque, il avait 76 ans à peu près, lorsque je suis arrivé là-bas, ça fait déjà quelques années. Il n'y a personne qui est capable de le toucher. Mais il est grand comme ça, le monsieur, et il est tellement doux. Ce qui était frappant, c'est de voir sa douceur à travers autant de compétences, puis son humilité, l'espèce de gag de se présenter comme le concierge, quand en fait, c'est le propriétaire de l'école, puis c'est le maître de l'école. C'est fascinant quand on rencontre de l'humilité derrière quelqu'un qui a énormément de connaissances, puis énormément de compétences. Ça fait une espèce de magie dans la personnalité qui est tellement belle, puis même surprenante pour l'être humain, parce que l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. Quand on découvre Jésus-Christ dans la Bible, on découvre un personnage plus grand que nature, qu'on n'aurait pas pu imaginer ou inventer, parce qu'on découvre Dieu le Fils qui décrit son cœur comme étant doux et humble de cœur. L'ironie avec Jésus, c'est que l'être qui a le moins de raisons dans l'univers pour être humble, mais l'humilité lui vient naturellement. Alors que nous qui n'avons aucune raison vraiment d'être orgueilleux, ça ne nous est tellement pas naturel. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est en connaissant le cœur de Jésus-Christ que je trouve la joie et le repos à le suivre. C'est vraiment un message qui parle de ce désir qu'on a à l'espoir d'être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Et l'Évangile de Jésus-Christ se manifeste particulièrement dans le cœur de Christ, dans son cœur, dans son attitude. C'est en connaissant le cœur de Jésus-Christ que je trouve la joie et le repos à le suivre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il me semble que c'est invitant de concevoir que je vais aller vers un Dieu, je vais aller vers un être parfait, exceptionnel, qui me dit « Viens à moi, puis je vais te donner du repos. Viens à moi si tu es fatigué, puis si tu es chargé, et je vais donner du repos à ton âme. » Ça, c'est invitant. C'est le genre de sauveur qui ne s'invente pas. Et la première chose que je veux souligner ce matin, c'est que Christ se révèle à celui qui connaît sa pauvreté spirituelle. Versets 25-26 dans Matthieu 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Jésus n'est pas en train de dire littéralement que les hommes les plus sages ne peuvent pas comprendre l'Évangile, mais que seulement un petit enfant de 3 ans peut comprendre l'Évangile. Il est en train de parler d'une attitude de cœur. Les sages de l'époque, c'était les experts de la Bible, les experts de la loi, les docteurs, les théologiens. C'est eux qui étaient reconnus comme les sages. Et pourtant, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont été presque tous incapables de reconnaître que c'était le Messie, de reconnaître que c'était celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Incapables de le voir. Qui va croire en Jésus? Les gens sans éducation, les pécheurs. C'est eux qui vont être ouverts à Christ. Jésus avait dit dans le sermon sur la montagne, toujours dans Matthieu au chapitre 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il y avait une vieille traduction très, très vieille qui disait « Heureux les creux, car le royaume des cieux est à eux. » C'est pas ça l'idée qu'il y a là, OK? C'est pas « Heureux les creux ». Les pauvres en esprit, c'est ceux qui sont humbles. C'est ceux qui se présentent sans prétention. C'est ceux qui ont conscience de leur pauvreté spirituelle. Christ ne va pas s'imposer à toi, mais il s'offre à toi si tu sens que tu as besoin de lui. Mais si tu as l'impression que tu as besoin de personne, si tu as l'impression que tu es au-dessus de la religion, tu es au-dessus de l'idée de Dieu, toi, tu t'es créé toi-même, toi, tu vas te recréer toi-même, tu vas t'inventer toi-même, bien, ça se peut que Jésus te laisse courir longtemps. Il va te donner du lousse, mon ami. Il va te donner du lousse. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver au bout de ta corde, puis là, tu vas dire, wow, OK. Puis tu vas découvrir que tu devrais te regarder avec un peu plus d'humilité. Je parlais avec un ami cette semaine, puis on réfléchissait sur le fait que, écoutez, maximum 3 décennies après ta mort, il n'y aura probablement plus personne qui va penser à toi. Je veux dire, on va faire référence à toi dans une discussion avec des petits-enfants qui vont dire « Ouais, j'avais un grand-père, hein, raconte-moi donc. » Puis là, ils vont raconter 2-3 anecdotes sur toi. Rajoute une décennie de plus, il n'y a personne qui se rappelle, à moins que tu t'appelles Winston Churchill ou Hitler, il n'y a personne qui se rappelle de toi. Mais nous, on est là, on vit dans une culture où on nous dit « Écoute, t'es quelque chose, toi. T'es quelqu'un. » Puis tu peux t'inventer, tu peux te réinventer. Et c'est un poids énorme qu'on met sur les gens, mais en même temps, ça nous éloigne de cette humilité-là, de celui qui dit « Non, c'est lourd d'être Yannick. C'est lourd pour moi d'être moi-même certaines journées. J'aimerais aller reposer mon âme à quelque part. » Jésus se fait connaître et fait connaître son Père à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et peut-être que tu n'es pas là ce matin. Peut-être même que tu viens à l'église de tes parents, puis tu te dis, « Ah, eux autres sont d'une autre génération, c'était bon pour eux, ça. » C'est correct. C'est correct dans le sens qu'on fait tout notre cheminement, on prend les années qu'on prend pour cheminer. Je prie que Dieu te montre plus tôt que plus tard que tu es pauvre spirituellement, puis que tu ne pourras pas t'inventer spirituellement toi-même. Tu n'es pas ton propre auteur, ce n'est pas vrai ça. C'est Dieu qui t'a créé. Mais ça prend cette qualité-là pour pouvoir s'approcher de Christ et pour que Christ nous fasse connaître le Père. Parce que c'est lui qui nous révèle le Père. Tu ne pourras pas connaître Dieu par toi-même. Regardez les versets 26 et 27. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus fait une prière publique. Ça semble être une prière publique ici. Il se met à prier en public et il dit, « Je te loue, Seigneur, de ce que tu as caché ces choses-là aux sages, aux intelligents et que tu le révèles aux enfants. » Puis là, il nous révèle quelque chose de son intimité avec le Père. Il dit, personne ne connaît le Père si c'est le Fils, Jésus. Puis, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Hein? Et celui à qui le Fils veut le révéler. mais il vient nous donner la première qualité nécessaire pour que tu puisses connaître le Père. Pour que Jésus te révèle le Père, il faut que tu sois comme un petit enfant à tes propres yeux. Sans prétention, sans prétendre que tu connais tout, sans prétendre que tu as toute la sagesse, que tu reconnaisses ton état de pauvreté spirituelle. Maintenant, c'est vrai pour celui qui devrait chercher Dieu, mais c'est vrai pour toi puis moi si on connaît Dieu. On est en train de dire que la première qualification pour aller vers Christ, c'est d'être conscient de mon état de dépravation, de ma faiblesse. Et pourtant, souvent comme chrétien, quand on prend conscience de notre faiblesse, c'est le moment où on s'éloigne de Christ. C'est le moment où on se sent indigne de s'approcher de Christ. Comme s'il y a un moment où tu vas être digne de t'approcher de lui. Comme s'il fallait qu'il y ait une dignité en toi pour que Christ t'accueille. Il est en train de dire exactement le contraire ici dans le passage. Ceux qui s'estiment dignes ne connaîtront pas Dieu, parce que le Fils ne leur révélera pas Dieu. Mais ceux qui s'estiment indignes, à ceux-là, Jésus dit, « Viens-moi, je veux te faire connaître Dieu. » Et c'est paradoxal, hein? Pour devenir chrétien, à quelque part, il faut que tu réalises que tu es pécheur, donc que tu es indigne. C'est une qualification essentielle pour devenir chrétien, parce qu'il faut que tu ressentes le besoin du pardon de Dieu, de la grâce, de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Mais ça demeure toute notre vie. Ce n'est pas seulement pour devenir chrétien que j'ai besoin d'avoir cette humilité-là. On a un beau projet de prière au Québec. Ce soir, on va prier à 18h, ceux qui sont avec nous dans le 24-7, ou si vous voulez venir prier avec nous. Puis la première requête, je l'aime tellement cette requête-là. La première requête, c'est « Seigneur, fais que tous les chrétiens soient remplis d'humilité en se levant le matin. » Qu'à chaque jour, ils soient remplis d'humilité. C'est la première disposition pour m'approcher de Dieu, c'est de dire « J'ai besoin. » Je ne suis pas autonome, je ne suis pas sans Dieu, j'ai besoin. Ce n'est pas seulement vrai pour celui qui devrait chercher Dieu ou qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Alors, imaginez la perversion de l'Évangile qu'on fait dans notre âme lorsqu'on s'éloigne de Christ parce qu'on s'indigne de lui. Plein d'entre nous ont fait ça. Je me sens indigne de toi, je me sens indigne d'aller dans ta présence. C'est ta première qualification pour t'approcher de lui. Et à quelque part, ma chair, le péché en moi fait qu'il y a de l'orgueil qui dit « Ah non, je peux pas aller vers lui, je suis indigne. » Ah man, t'es indigne. Trop souvent, tu t'es approché de Christ en pensant que tu étais digne de t'approcher de lui. Puis il est bon, il est gracieux. Il passe par-dessus tes prétentions. Mais hein, on a le réflexe d'aller vers lui quand on a une bonne journée, une bonne semaine. Nos disciplines spirituelles vont bien. Je lis ma Bible régulièrement de ce temps-ci. Je suis parti sur une bonne ligne. Puis là, je me pète la baboune. Je tombe, je néglige. Il y a quelque chose qui revient. Une vieille dépendance, un vieux péché qui refait surface. Puis je m'éloigne parce que je me sens indigne. Pourtant, c'est à ce moment-là que je suis le plus qualifié pour revenir à lui. Parce que j'ai conscience de mon indignité. Viens à lui. Regardez ce qu'il dit au verset 28. Venez à moi. Au verset 29, prenez mon joug. C'est vraiment intéressant. Dans ce passage-là, tu vois la part de Dieu, puis tu vois ta part à toi. Ta part à toi commence par ressentir, être conscient de ton besoin de Christ. La part de Dieu, c'est qu'il regarde, puis il voit ceux qui sont indignes, puis Jésus dit, tiens, je vais lui révéler le Père. Parce qu'il sent qu'il a besoin de Dieu. Il est conscient de ça. La part de Dieu. Ta part à toi maintenant. Viens. Viens à Christ. Prends son joug. Fais le pas. Prends la décision. Parce que Christ ne s'imposera pas à toi ni à moi. Il ne le fera pas, ça. Des fois, il est insistant. Des fois, il nous parle. Des fois, il nous corrige. Mais il ne va pas s'imposer à toi. Il dit, viens à moi, je t'attends avec un cœur disponible, avec un cœur ouvert, avec un cœur qui désire t'accueillir. Craig Blomberg, un commentateur des Écritures que j'aime énormément, dit « Les Juifs parlaient couramment de prendre le joug de la Torah. » La Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Puis les Juifs parlaient souvent de prendre un joug. Vous savez, c'est quoi? Peut-être pas. C'est un instrument qu'on mettait sur des bêtes qui travaillaient dans un champ. Puis on mettait ça sur leurs épaules pour qu'elles puissent travailler ensemble. Puis comme elles travaillaient à deux, puis elles étaient synchronisées, mais c'était plus facile d'avancer. Le travail était moins lourd. Les Juifs parlaient souvent des cinq premiers livres de la Bible comme la manière de s'approcher de Dieu, c'est de prendre sur tes épaules le joug de la Torah, de mettre ça sur tes épaules, puis là, tu vas t'approcher de Dieu. Puis Jésus dit, lui, venez à moi. Il ne parle pas de prendre un joug premièrement. Il dit, venez à moi. Venez à moi parce que mon joug est léger. Venez à moi. Et souvent, comme chrétien, on pense qu'aller à Christ, c'est aller à la loi. Mais aller à Christ, c'est aller à Christ. Aller à Christ, c'est se tourner vers celui qui a toujours les bras grands ouverts, qui m'attend quand je me sens indigne. Fait que j'espère ce matin que tu te sens indigne. J'aimerais ça que tu te trouves poche ce matin. Ça t'aiderait à t'approcher de Jésus. Mais si tu es arrivé ici en disant, écoute, je suis quand même mieux que le reste des Québécois, moi. Ça a l'air que 49% des Québécois ne croient pas en Dieu. Je ne fais pas partie de cette gang-là. Ça ne va pas te rapprocher de Christ, ça. Mais plutôt, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu t'es fait connaître à moi? Quand tu choisis d'aller vers une personne dans un moment de vulnérabilité, c'est parce que tu sais de quoi est fait cette personne-là. Ben, Christ est doux et humble de cœur et il attend seulement que tu viennes vers lui. Seulement que tu viennes vers lui. Regardons le cœur de Christ un instant. Le cœur humble de Christ, il y a un paradoxe incroyable ici. Verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Ça fait écho à Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus dit, « Tout m'a été confié. » Connaître Christ, c'est réaliser que c'est Dieu le Fils. C'est celui qui est là à la création du monde. C'est celui qui vainc la mort, qui va vaincre le péché. Celui à qui Dieu va donner toute autorité, tout pouvoir, dans les cieux et sur la terre. Donc, Jésus est tout puissant. Quand il se fait arrêter, puis il s'en va vers la croix, puis là, Pilate dit, « Écoute, prends ta défense, dis quelque chose, j'ai pouvoir sur ta vie. » Jésus, tranquillement, il dit, « Voyons donc, sérieux, tu penses pour de vrai que tu as une autorité sur ma vie? Mon Père et moi, on est juste en train d'accomplir nos plans, là. S'il devait en être autrement, une légion d'anges viendrait, puis tu ne pourrais rien faire contre moi. » Jésus est le Tout-Puissant. Il faisait des miracles. C'était évident, il était dans une classe à part. Puis quand je réalise sa grandeur, ce qui est paradoxal, c'est de réaliser qu'il est humble. Donc Jésus manifeste sa puissance. Hein? Moi, je regarde souvent dans l'Apocalypse, puis j'ai hâte de voir Christ revenir dans sa gloire. Les chrétiens, des fois, on est là, puis on se dit, « Check bien ça, mais qu'il revienne, vous allez arrêter de rire de lui. » Il va arriver dans toute sa puissance, sa majesté. Et pourtant, ce qui décrit son cœur, c'est l'humilité. J'ai dit tantôt, c'est paradoxal. Jésus est l'être dans l'univers. C'est l'être humain, c'est un être humain. C'est l'être humain qui a le moins de raisons d'être humble. Je veux dire, juste être lucide. Il a créé l'univers, il t'a créé, il tient le souffle de ta vie entre ses mains. La mort ne peut pas l'arrêter, il ressuscite les morts. Il est la parole de Dieu. C'est à travers lui que Dieu a créé l'univers. Quand Dieu a dit, c'est à travers Christ qu'il l'a dit. C'est lui qui est là à la création de l'univers. C'est l'être humain qui a le moins de raisons dans toute l'histoire de l'humanité d'être humble. Puis pourtant, c'est l'être humain à qui l'humilité de cœur vient le plus naturellement. Il ressent aucun besoin de terrifier le monde avec sa grandeur. Il ne ressent aucun besoin de te manifester toute sa puissance pour que tu trembles constamment devant lui. J'ai souvent cité cette illustration-là. J'avais trouvé tellement belle dans Narnia, les chroniques de Narnia, si vous avez vu les films ou si vous avez lu le livre. Ça a été écrit par C.S. Lewis, puis la trame de l'Évangile, puis des échos à la Bible sont constants dedans. C'est très clair que cet homme-là aimait la parole de Dieu. Puis Aslan, qui représente le lion de Juda, qui représente Jésus, il y a un moment où il arrive devant la sorcière maléfique, puis elle commence à le mépriser. Parce qu'il est doux, puis il marche lentement, puis tout d'un coup, il va juste rugir un instant. Juste pour dire, juste te rappeler qui je suis. Christ ne fait jamais ça avec celui qui vient à lui avec humilité. Lisez les évangiles, là. Jésus se fâche envers les orgueilleux, les prétentieux, les sages de ce monde. Aslan a rugi devant l'orgueil de cette maléfique sorcière. Puis tout d'un coup, il a rappelé qui il était. Mais en fait, le cœur de Christ, c'est qu'il est doux et humble de cœur. Toi et moi, lorsqu'on manifeste de l'humilité et de la douceur, c'est parce que l'Esprit travaille en nous. Lorsqu'on accueille quelqu'un avec humilité, avec douceur, c'est parce qu'on a une bonne disposition de cœur. Mais chez Jésus, ce n'est pas une manière d'agir par moment. C'est ce qui définit ce qu'il est. Christ est humble de cœur. Il ne sent aucun besoin de mettre sa gloire de l'avant. Il ne sent aucun besoin de nous faire sentir qu'on est petit. Il nous accueille. Il dit, « Venez à moi parce que je suis doux et humble de cœur. » La douceur, on la comprend, c'est un terme qu'on peut imaginer. Hein? C'est vraiment quelqu'un qui va parler avec douceur, quelqu'un qui va parler avec charité. Cette semaine, pasteur Michel et moi, on se rappelait d'Élie, le prophète Élie, qui est Dieu se sert de lui de manière puissante. Puis ensuite de ça, il est poursuivi par Jézabel. Puis là, il sauve, s'en va se cacher dans une caverne. Puis, oh, moi, j'étais là, moi. Puis là, Dieu vient se faire connaître à lui à travers un doux souffle léger. Ça, c'est la douceur. C'est la douceur de Dieu. Humble de cœur, c'est quelqu'un qui ne ressent aucun besoin de révéler vraiment toute sa sagesse. Aucun besoin de te faire savoir qui il est. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il n'est pas allé pleurer une nuit au jardin de Gethsémané avant. Vous comprenez, ce n'était pas comme une épreuve pour Jésus de dire « Je vais laver les pieds de ces disciples-là qui sont tellement rebelles, qui sont tellement ordinaires. » On dit ça au Québec, ordinaire. Ils étaient très ordinaires, les disciples de Jésus. Ce n'était pas une épreuve pour Jésus d'être humble et de laver les pieds. Il a pleuré au jardin de Gethsémané parce qu'il allait prendre le poids de nos péchés sur lui. Il allait subir la colère de Dieu à notre place. Ça, c'était l'épreuve. Ce qui allait se passer entre son Père et lui. Mais être humble, être serviteur, écoutez, nous autres, faire ça. La majorité des conflits dans nos vies viennent du fait qu'on n'a pas le goût d'être serviteur. Si on veut être honnête, là. La majorité des conflits dans nos vies viennent du fait qu'on dit, « Hey, attends un peu, on ne me traite pas de même. » Je veux dire, dans le fond, la majorité, c'est quand même ça. À quelque part, tu sais, j'ai plus le goût d'être celui qui décrotte tes orteils, qui te lave les pieds. On ne me tente pas, pas aujourd'hui, pas là. Hier, oui, souvent, mais pas là. Parce que c'est contre nature pour nous. Notre bien nature, elle revient au galop rapidement. Jésus n'est pas allé pleurer dans le jardin de Gethsémané une nuit pour dire, « Boy, man, il faut que j'aille leur laver les pieds. Ils font tellement dur, ça n'a aucun bon sens. Je suis au-dessus de ça, je ne peux pas m'abaisser comme ça. » Non, ça lui était naturel de faire ça. C'est un geste naturel pour Jésus de faire ça. Parce que pour Jésus, être doux et humble de cœur, ce n'est pas une attitude qu'il adopte par moment. C'est ce qu'il est fondamentalement. C'est ce qu'il est. Et si tu penses à Jésus-Christ, dans les moments où tu feels cheap, où tu ne te sens pas à la hauteur, et que ton réflexe, c'est de t'éloigner de lui plutôt que de courir vers lui, c'est que tu ne le vois pas comme étant fondamentalement quelqu'un qui est doux et humble de cœur, qui dit, « Je sais que c'est lourd d'être toi. Je sais que la vie est lourde. Je sais que c'est lourd de porter les poids de la vie. Je sais que c'est lourd de vivre dans un monde de pécheurs. Viens à moi. Viens trouver du repos pour ton âme. » Et on a besoin de grandir. Pour grandir dans notre vie de prière, pour avoir de la joie, une joie réelle à suivre Jésus-Christ, j'ai besoin de grandir dans cette vision. J'ai besoin d'être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est son cœur, l'Évangile. C'est son cœur, c'est comme ça qu'il te regarde. Viens à moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Lui qui aurait toutes les raisons du monde d'être orgueilleux, puis d'être fier, puis de dire, écoute, tu ne peux pas me traiter comme ça. Jésus t'invite à venir à lui, non pour sa gloire, mais pour le repos de ton âme. Viens te reposer auprès de Jésus-Christ. Peut-être que tu n'es pas là, peut-être que tu dis, non, moi, il faut que j'aille essayer le monde. Un Dieu comme ça, je ne sais pas, j'ai besoin de me gouverner moi-même. Quand tu seras fatigué de toi-même, là, viens à Christ pour le repos de ton âme. Je termine avec ceci, le repos de nos âmes. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Recevez les instructions de Christ. Un des domaines où on a à travailler nos cœurs, puis c'est pour ça qu'à l'Église de l'Espoir, on revient constamment à Jésus-Christ et à l'Évangile, c'est que notre manière de voir les instructions de Dieu, c'est qu'on les voit comme des choses qui nous empêchent de faire des niaiseries, mais à quelque part qui nous empêchent d'être heureux. Et on a besoin d'apprendre que le repos de nos âmes se trouve à suivre Jésus-Christ. Par nature, on est des êtres religieux et donc on voit la religion comme un truc de performance. Bien, si c'est un truc de performance, il y a un moment où tu veux te reposer de tes performances. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, je ne sais pas c'est quoi tes loisirs, mais je veux dire, quand tu t'appliques à performer, que ce soit les arts martiaux, ça pourrait être le cas pour une prédication, pour mon travail, je ne sais pas dans quel travail tu occupes, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, que ce soit les études. Quand tu dois performer, il y a un moment où tu veux te reposer de performer. Et notre attitude religieuse fait qu'on voit la religion, on voit même le christianisme, la foi chrétienne, comme un truc de performance. Bien, c'est normal que si c'est un truc de performance, il y a un moment où je dois me reposer de mes performances. C'est ça qui fait qu'on a des espèces de patterns où on dit, « OK, là, aujourd'hui, je vais être un bon chrétien, je vais m'appliquer à faire ça, même je vais aller à l'église aujourd'hui, je vais aller performer, puis après, bien, je vais aller me reposer de ma performance. Puis là, je suis attiré par mes péchés. » Que ce soit un comfort food où je m'en vais dans des excès de table, que ce soit la boisson, que ce soit d'aller binger sur Netflix, ou je ne sais pas, peu importe. Mais tout excès pour aller me reposer, au lieu de comprendre que le repos se trouve à suivre Christ. Suivre Jésus-Christ, prendre ses instructions, c'est un repos pour nos âmes. Sois attentif à cette voix dans ta tête qui te dit, « Écoute, c'est pas facile la vie chrétienne, il faut travailler fort. » Bien, c'est vrai, ça va te coûter ta vie entière, tu vas mourir à toi-même, puis tu vas être beaucoup plus reposé et plus heureux que si tu ne le fais pas. Ce paradoxe-là devrait toujours être présent dans ta tête. Je cherche à me reposer, je vais suivre Jésus. Est-ce que ça fit ensemble dans votre tête, ça? J'ai le goût de me reposer aujourd'hui, je vais aller suivre Jésus. Ou dans votre esprit, c'est « j'ai fait mes devoirs chrétiens, j'ai performé, maintenant je vais aller me reposer. » Tu vas être reposé dans quoi si tu ne te reposes pas en suivant Jésus? Et remarquez que ça peut être plein de choses, hein? Je veux dire, moi le dimanche, là, je fais une sieste le dimanche après-midi. Puis je suis convaincu que Jésus est là à côté et il dit « bonne idée, mon homme. » Convaincu de ça. J'ai plein de moments où je me repose, où j'ai un peu de loisirs, puis aucun problème avec ça. Mais je ne suis pas en train de me reposer de Christ. Je ne suis pas en train de me reposer de ma performance. Recevez mes instructions, parce que c'est là que se trouve le repos de vos âmes. J'aime cette citation de Blumberg qui dit « Jésus assimile la vie chrétienne au repos spirituel. » En anglais, « Jesus equates Christian life to spiritual rest. » Est-ce que pour toi, la vie chrétienne, c'est une vie de repos? Est-ce que pour toi, être chrétien, c'est plus reposant que d'être non-chrétien? Suivre Jésus, est-ce que c'est plus reposant que de ne pas le suivre? Je pense que si on veut être honnête, on va dire que ça dépend des fois. Là. En tout cas, pour moi, ça dépend des fois. Ce n'est pas vrai que je suis toujours en train de dire « je vais aller me reposer en suivant Jésus ». Et parfois, je m'arrête. Les pasteurs, là, le lundi, là, je vous le dis. Là. Si vous voulez savoir quand est-ce que vous devez prier pour nous, c'est le lundi. Les pasteurs pêchent le lundi. D'accord? C'est la journée du péché pastoral. Je vous le dis, c'est comme ça. On se le dit toute la gang. On veut tellement bien faire pour l'Église. Le dimanche, on se donne, on se prépare, tout converge vers ça. Là, je vais aller me reposer de ma performance de pasteur. Priez pour nous les lundis, les amis. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Écoutez, on va vous donner un livre à la sortie. Je vous invite à le lire. « Doux et humble de cœur ». C'est un livre qui a fait du bien à mon âme. Il vient de sortir en français. Ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Je pense qu'on a du chemin à faire pour découvrir la douceur et l'humilité de cœur de Jésus. Pour avoir une autre vision de ce que c'est le christianisme. Pour avoir une autre vision de ce que c'est de venir à Christ. Grandir dans l'Évangile, être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ, ça veut dire saisir le cœur de Christ. Et qu'aller vers lui, prendre ses instructions, devienne pour nous un lieu, un endroit de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prenez une copie du livre en sortant. Prenez la décision de lire ce livre-là dans une attitude de prière pour connaître le cœur de Jésus. Peut-être offrir à quelqu'un dans l'Église ou quelqu'un qui s'est éloigné ou peut-être quelqu'un qui cherche Jésus-Christ. Si en sortant d'ici, tu dis « j'ai un ami qui est proche, il pose des questions », prends une autre copie du livre. Donne-lui. Dis « on va le lire ensemble. On va partager ensemble. » Tu peux venir à la prière aussi ce soir. Si tu dis, je veux être proche du cœur de Jésus, viens prier avec moi ce soir à 18h. Dans la Bible, un jour, il y a une dame qui a été qui s'est fait surprendre dans une situation d'adultère. Femme mariée, en train de tromper son mari. La loi juive était très, très claire. C'est quelque chose qui était inacceptable en Israël. Ça a toujours été très bizarre pour moi, ce passage-là, parce que si elle était en train de tromper son mari, elle devait le faire avec quelqu'un. Il y a juste la femme qui s'est fait attraper. C'est rempli d'hypocrisie. Mais des autorités juives se saisissent de cette femme-là, puis ils l'amènent à Jésus, parce qu'ils veulent se servir de cette occasion-là pour piéger Jésus. Ils veulent que Jésus la condamne à être lapidée. Il dit, elle a été surprise en flagrant délit de péché. Il faut la condamner. Ils sont en train de faire passer un test à Jésus. Puis Jésus leur dit une phrase. Il leur dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. C'est frappant. Tous ces accusateurs sont partis. Ils auraient pu rester, hein? Ils auraient pu rester en disant, « T'as raison. Moi-même, je suis pécheur. Je veux connaître la suite de l'histoire. » Mais ils étaient beaucoup trop sages pour Jésus. Ils ont juste été confondus par leur hypocrisie et ils sont partis. Qu'est-ce que Jésus a dit à cette dame-là? Où sont tes accusateurs? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est le cœur de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte et glorieuse présence, un peu plus conscient de ta douceur, de ta tendresse, mais de ton humilité aussi, Seigneur, ça... C'est difficile à mon intelligence d'associer un être aussi glorieux que toi à quelqu'un qui a naturellement un cœur humble et ça parle tellement de ta compassion. Tu es tellement conscient de nos limites, de nos faiblesses, de nos péchés, de nos chutes, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es majestueux, Seigneur. Seigneur, ce matin, on veut te célébrer, on veut t'adorer, on veut venir à toi. Et je te prie pour ceux et celles qui peut-être ne se sentent pas près de toi, Seigneur, qui ont encore besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Parle-leur à travers ce temps de louange, d'adoration, que nos cœurs, Seigneur, soient attirés par un Sauveur aussi merveilleux, un Sauveur aussi doux, aussi beau. Amen.